France Inter.
Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous emmène dans la grotte sanglante. Ce pourrait être le titre d'un roman destiné à faire frissonner dans les chaumières, pensez donc. Une disparition, un endroit sombre, effrayant, peuplé sans doute de dangers invisibles et forcément de l'hémoglobine à profusion. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui comporte bien quelques ingrédients de ce genre, mais c'est une histoire vraie. Sinon, évidemment, elle n'aurait pas sa place ici. Elle se déroule dans le sud de la France, dans la ville de Sète. Précisément, nous sommes en juin 2014, et un certain Patrick Isward, un agent hospitalier de 49 ans, a disparu. Quelques jours plus tard, on retrouve son scooter ainsi que son téléphone restés dans le coffre du véhicule. Et dans une grotte proche de cet endroit, les enquêteurs découvrent le corps sans vie de Patrick Isward, ligoté, bâillonné, tué de 2 balles de fusil de chasse, la tête et le thorax calcinés. Cette histoire trouble que nous allons vous raconter aujourd'hui est un récit tragique dont les protagonistes sont un coiffeur, une chômeuse, un agent hospitalier, une femme de ménage, des gens ordinaires embringués dans une histoire extraordinaire, du bois dont on fait les meilleurs faits divers. Un scénario qui à ce jour n'a pas révélé tous ses secrets, histoire de nous tenir en haleine comme le veut tout bon fait divers. Notre invitée aujourd'hui, la journaliste Élise Costa, qui a écrit pour le site d'information Slate une série d'articles sur le sujet. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Odile Conseil, coordination Christophe Barrère, réalisation Flora Bernard.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Le cadre de cette histoire, c'est donc la ville de Sète, une riante cité du Sud qui évoque immédiatement Georges Brassens et sa supplique pour être enterré sur la plage de Sète, avec ses vers immortels « Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences, vous envierez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant qu'il passe sa mort en vacances ». Mais la ville de Sète, ce ne sont pas que ces mots sublimes. Ce sont aussi, plus prosaïques, les fameuses joutes nautiques, dont un certain Patrick Isward est fan. Les voici ces joutes, brièvement décrites dans les Nuits magnétiques de France Culture en 1992.
Imaginez, dans le grand canal de Sète, deux longues embarcations avec des rameurs. À la proue de chacune d'elles, une plateforme appelée ici la tintaine, sur laquelle se tient le jouteur vêtu de blanc, et portant lance et pavois. Dans chaque barque, les hautbois encouragent les combattants. Le reste appartient à la ruse, aux muscles, à l'adresse.
Patrick Isward porte toujours en pendentif ce pavois d'or, une réplique du bouclier avec lequel les joutistes se protègent de la lance de l'adversaire. C'est Marc, l'un de ses frères, dont il est très proche, qui la lui a offerte. Employé à l'hôpital de Sète, Patrick est chargé du portage des repas. Quand il termine son service, à 16h30, il passe embrasser sa mère, puis file au café Le Terminus, où il retrouve sa bande d'amis pour des parties de belote. Patrick Isward est un garçon apprécié. Il aime organiser des barbecues avec ses collègues, la fête avec ses amis, ne suçant pas que de la glace, comme on dit, c'est d'ailleurs... L'alcool et ses excès qui causeront son divorce avec Claude, sa femme, rencontrée en 2000 à l'hôpital, épousée un an plus tard. Le divorce est prononcé en 2006. Leur fille, Alabama, a 5 ans à l'époque. Patrick adore sa fille, c'est lui qui a trouvé son prénom d'ailleurs, dont il est très fier. Ce père divorcé est toujours là pour elle. Il ne manque aucun goûter d'anniversaire, aucun spectacle pour gosses. Sauf ce 23 juin 2014, où l'adolescente guette en vain son père parmi le public du gala de théâtre au collège. Depuis son divorce, Patrick vit avec sa mère, entouré d'amis, mais seul. À 2 reprises, cependant, l'amour, ou quelque chose qui pouvait peut-être y ressembler, était venu frapper à sa porte. En 2009 d'abord, il avait eu une aventure avec Nadège, femme de ménage à l'hôpital de Sète. Tous deux s'appréciaient d'abord collègues, puis copains, puis amis, puis amants. Le soir où Nadège avait fêté avec des amis sa titularisation à l'hôpital, ils se seraient déclaré leur amour et seraient passés à l'acte. Nadège avait dit à Patrick qu'elle voulait commencer une nouvelle vie avec lui et quitter son mari, un certain Rémy Chen. Mais le lendemain de cette soirée déterminante, Nadège Chen est retrouvée pendue dans son garage. À côté de son corps sans vie, une lettre destinée à son mari dans laquelle cette femme très croyante, qui allait régulièrement en pèlerinage à Lourdes, s'accuse. « Tu connais mes idées en matière de fidélité. Cela me fait du mal de savoir que j'ai franchi cet interdit », écrit-elle. Alors, un suicide, ça y ressemble. Mais ce n'est pas certain. Revenons à Patrick Isward. En cette année 2014, une ex, perdue de vue depuis des années, reprend contact avec lui. « Elle me fait du rentre-dedans », avait dit Patrick Isward à l'un de ses amis, en évoquant le rendez-vous qu'elle lui avait fixé. Il lui avait même fait écouter son message à cet ami qui témoigne dans une émission de télé.
« C'est une femme, voix très douce, très mielleuse, hein, qui lui disait qu'elle aimerait le revoir. Pour boire un café, pour discuter. »
Cette jeune femme à la voix mielleuse s'appelle Audrey Louvet. Elle est là-bas. Le cinéma et la littérature nous ont appris à imaginer là-bas comme une jeune femme un peu diabolique, sous un air ingénu, diablement tentatrice également, à l'image de l'héroïne, si l'on peut dire, du livre de Morgan Sportes, là-bas, paru en 1990, inspiré d'une histoire vraie, dont voici la quatrième de couverture.
Elle a 18 ans, elle est brune, et belle peut-être, et rêve d'être mannequin, actrice. Vêtue de noir, elle hante les boîtes de nuit des Champs-Élysées. Les messieurs d'un certain âge lui glissent des mots doux et des rendez-vous, sans savoir que ce n'est pas le septième ciel qui les attend, mais l'enfer. La sage, timide jeune fille, a deux complices. Ils se chargent d'assassiner de la manière la plus atroce les conquêtes de leur ami.
Dans l'histoire qui nous occupe, il y a certes un assassinat, mais pas de Champs-Élysées, pas de toute jeune femme. Non, au moment des faits, Audrey Louvet a 33 ans. Ce n'est plus ce qu'on appelle une jeune première. Et sa vie est un long chagrin, comme l'écrit la journaliste du Monde qui a suivi le procès qui s'est tenu au début de cette année. Audrey Louvet n'a pas connu son père. Elle ne parle pas de sa mère, mais de sa génitrice. Elle ne m'aimait pas, dit-elle. Maltraitée à la maison, abusée par ses frères, elle a quitté l'école à 14 ans et le domicile familial dès que possible. Une pauvre fille, une personne immature et fragile, pour le dire plus gentiment, qui a vécu d'expédients, laissé des hommes utiliser son corps en échange de provisions dont elle avait besoin, du lait, des couches pour ses deux enfants, son seul bien, ses enfants, son unique raison de vivre. Elle dit d'elle-même qu'elle a toujours été une idiote, une teubée, bête, en verlan. Voici ce que disait d'elle Maître Christol, l'un de ses avocats, à l'ouverture du procès.
Il suffit qu'on lui demande quelque chose pour qu'elle ait le sentiment qu'elle existe, parce qu'à part ça, elle est dans une immense solitude. Donc, quand on lui a demandé un service, elle a accepté. Bien entendu, elle n'avait jamais imaginé qu'elle allait participer à un assassinat. Ça, c'est une évidence.
Audrey Louvet a fait la connaissance de Rémy Chen grâce à la voiture de celui-ci ornée d'un autocollant « coiffeur à domicile ». Pour cette jeune femme qui déteste aller chez le coiffeur, oui, parce qu'elle a peur du regard des gens quand elle en sort, dit-elle. Eh bien, c'est une chance. Donc elle l'appelle, il vient la coiffer, il se revoit, se rapproche, devient amant. Peu à peu, un plan germe dans la tête de Rémy Chen. Utiliser Audrey Louvet pour attirer Patrick Isward et lui régler son compte. Un jour qu'il l'a croisée dans les couloirs de l'hôpital, peu après la mort de sa femme, il lui a lancé « Toi, je t'aurai ». Rémy Chen évoque des problèmes d'argent parfaitement imaginaires. Il a 400 000 euros sur ses comptes, pensez donc. Deux maisons, un bateau, mais cela, Audrey Louvet l'ignore. Il lui parle d'un homme qui lui doit une grosse somme d'argent, qui se fait tirer l'oreille pour le rembourser, et il lui montre la photo de cet homme. C'est Patrick Isward. Mais je le connais, s'exclame la jeune femme. Et pour cause, quelques années plus tôt, elle a eu une aventure sans lendemain avec lui. Rémy Chen y voit un signe du destin. Audrey devra reprendre contact avec Patrick Isward et, une fois celui-ci mis en confiance, l'amener à l'intérieur d'une grotte située au pied du Mont Saint-Clair, dans les environs de Sète, sous un prétexte quelconque. Là, promet Rémy Chen, Deux professionnels l'attendront et lui feront suffisamment peur pour qu'il s'empresse de rembourser son débiteur. Nous voici donc à l'entrée de la cavité. Une grotte, c'est toujours un lieu plein de mystères, refuge ou porte de l'enfer. Ils sont nombreux, ceux qui ont écrit sur ces lieux. L'un des plus célèbres, c'est Victor Hugo, dans ce poème intitulé « Au gouffre », dont voici un extrait.
Nous contemplons l'obscur, l'inconnu, l'invisible. Nous sondons le réel, l'idéal, le possible. L'être, spectre toujours présent. Nous regardons trembler l'ombre indéterminée. Nous sommes accoudés sur notre destinée, l'œil fixe et l'esprit frémissant.
La grotte dont nous allons parler dans cette histoire n'aurait probablement pas inspiré Victor Hugo. La voici décrite d'ailleurs par le journaliste Jean-Alphonse Richard dans son émission L'heure du crime sur RTL. Vous allez voir, c'est beaucoup moins poétique.
Une cavité qui s'avance dans la roche sans éclairage et dans laquelle il est facile de s'égarer. Un lieu fréquenté par des marginaux, des toxicomanes et quelques couples qui se retrouvent à l'abri des curieux.
Mais ici, pas de couple, pas de flirt. Non, cet endroit sera le cadre d'un assassinat préparé, organisé, impitoyable. En lieu et place des deux hommes qui devaient intimider Patrick Isoard, Audrey Louvet, sa victime, tombe sur un homme seul, fusil à la main. Il porte un masque blanc, mais la part reconnaît rapidement Rémi Chen à sa voix. Et lui lance un rouleau de ruban adhésif. C'est elle qui doit attacher les mains de Patrick Isoard, lui enlever chaussures et chaussettes, lui couvrir la tête d'un sac en tissu et déguerpir quand l'homme armé lui en donne sèchement l'ordre. Elle ne veut pas savoir ce qui se passe ensuite. Non, elle court, elle n'entend rien, elle ne se souvient de rien. Le blanc total. Tandis que dans le noir de la grotte se joue une pièce en rouge, rouge sang.
Inter, affaires sensibles.
Face à Patrick Isoard, face à celui qui a aimé sa femme, celui dont il veut se venger depuis 5 ans, que fait Rémi Chen? Eh bien, il le tue froidement, de 2 balles à bout portant. Puis il met le feu au corps en l'arrosant copieusement d'essence. Mais avant cela, lui a-t-il parlé? Lui qu'on décrit comme bavard, très bavard même, selon le psychiatre qu'il a examiné en prison. Et si oui, que lui a-t-il dit? Patrick Huard a-t-il expiré en connaissant le nom de son assassin ou celui-ci est-il resté masqué et muet tout au long de cette mise à mort ? Autant de questions sans réponse. Car Rémy Chen, s'il est beau parleur, est aussi un homme secret. Lors du procès, face au juré, il reste de marbre. Il n'avoue rien, ne reconnaît rien, droit dans ses bottes. Tout ce qu'il accuse, coïncidence, il n'explique pas. Comme il n'explique pas non plus les coups de téléphone d'André Louvet qui ont systématiquement suivi ses appels à Patrick Huard, comme pour rendre compte. Ni les mots-clés tapés sur un moteur de recherche retrouvé dans son smartphone, et pourtant, que voit-on ? Alibi, attiré, cartouche, enflammé. Ni l'épingle GPS correspondant à l'endroit exact où il a déposé Audrey Louvet, non loin de la grotte, le jour fatal. Ni le fait que son téléphone soit resté éteint, donc impossible à tracer pendant plusieurs heures, au moment, précisément, de la mort de Patrick Huard. Un homme ordinaire, ce Rémy Chen ? En apparence, oui. En tout cas, c'est l'image qu'il veut donner à la cour et aux jurés auxquels il se présente ainsi au début de son procès en janvier 2021. « Je suis une personne calme, respectueuse. Je ne suis pas rancunier. » Il dit avoir eu une enfance heureuse, une vie professionnelle heureuse. Pendant 30 ans, il a exercé son métier à l'hôpital, dans les maisons de retraite. Puis, il est devenu coiffeur à domicile, explique-t-il, car il voulait être indépendant. À 7, tout le monde connaissait cet homme et son véhicule. Sa fille, Laurine, le décrit dans un documentaire réalisé en 2018 par TF1 sur cette affaire.
Il a une voiture avec des grosses publicités, coiffure à domicile. Donc oui, il est connu, c'est le premier coiffeur à domicile de Sète. Ça fait très longtemps qu'il a son entreprise. Et puis quand il circule dans la ville avec sa voiture, il passe pas inaperçu, ça c'est sûr.
Et c'est grâce à son véhicule que Rémy Chen a fait la connaissance d'Audrey Louvet. Grâce à lui encore, qu'il a rencontré celle qui deviendra sa nouvelle compagne quelques années après la mort de sa première épouse, Nadège. Mais derrière cette apparence lisse, se cache une personnalité complexe. Rémy Chen n'a pas de copains, pas d'activité sociale. « Nous sommes très famille », dira Céline, la nouvelle compagne, lors du procès. Des amis, des proches susceptibles de venir témoigner en sa faveur, la défense n'en a pas trouvé. Tout le contraire de Patrick Huard, qui comptait lui de nombreux amis. Rémy Chen, c'est son garagiste qui l'appelle un soir, peu après le suicide de sa femme, pour lui demander de venir le réconforter. « Je n'ai personne à qui parler », se plaint-il au téléphone. Je me suis dit qu'il devait être vraiment seul pour n'avoir pas de proche à qui téléphoner, à part moi, confirme le garagiste, Jérôme, lors du procès. Rémy et Jérôme se sont revus quelques fois. C'est la journaliste Elise Costa qui le raconte sur le site d'information Slate, en date du 2 février 2021.
Par la suite, Rémy Chen a invité Jérôme à dîner chez lui, une, peut-être deux fois. Dans le salon était dressé un autel, un grand portrait de Nadège entouré de bougies. La femme de Jérôme n'était pas à l'aise, l'hôtel lui faisait bizarre. « J'avais du mal à entrer dans cette maison », se rappelle-t-elle. Et puis, une autre femme est arrivée, c'était en 2012. Céline contacte le coiffeur pour une prestation à domicile, il vient chez elle, elle entre dans sa vie. Aux enquêteurs, Jérôme a indiqué « Rémy Chen cherche à être maître chez lui. Il m'a dit qu'il avait récupéré les moyens de paiement de sa nouvelle compagne, carte bleue et chéquier, parce que sa famille essayait de profiter d'elle. »
Un homme plutôt manipulateur, dominateur. C'est bien ce qui apparaît à travers ces témoignages, confortés par le rapport de police rédigé lorsque Rémy Chen avait été mis sur écoute peu après la disparition de Patrick Huard. Voici un extrait du rapport de police. Madame, Céline donc, la nouvelle compagne, est très dépendante de Monsieur Chen. Elle l'appelle toute la journée pour des broutilles, à propos de ce qu'elle doit faire à manger, des papiers qu'elle reçoit, de l'éducation de son fils. Les mensonges dont Rémy Chen abreuve Audrey Louvet confirment ce côté manipulateur. Un jour, il se plaint tellement d'être dans la dèche à cause de celui qui lui doit prétendument l'argent qu'elle lui donne un paquet de pâtes et une boîte de sauce tomate. C'est elle qui le racontera à la barre. Car lui, Rémy Chen, ne dit rien, en tout cas rien d'essentiel. Il se mure dans le silence, personnage insaisissable dont le comportement a étonné jusqu'à l'expert psychiatre cité au procès pour dresser le portrait de l'accusé. Rémy Chen, dit-il, a besoin de proposer des scénarios, ce qui est rare de la part d'un accusé qui se proclame innocent. Face à la cour, l'accusé agit pareillement. Voici par exemple ce qu'écrit la journaliste Pascale Robert-Diard dans le journal Le Monde.
Rémy Chen est un innocent organisé. Il ne répond jamais spontanément à la question qui lui est posée. Il inscrit sa réponse dans un scénario. Un peu comme si on l'interrogeait sur le temps qu'il fait dehors et que, au lieu de regarder le ciel, il commençait par se demander s'il avait intérêt ou pas à dire qu'il est bleu. À l'audience, l'effet est désastreux. Il le conduit à mentir sur des évidences.
Au moment des faits et dès la disparition de Patrick Isouard, ses amis et ses proches s'inquiètent. Il n'était pas au gala théâtre de sa fille, première chose. Son téléphone ne répond pas. Il n'a donné aucune nouvelle. Tout cela ne lui ressemble pas. Ses amis et l'un de ses frères, Marc, font donc le tour de la ville. Deux jours plus tard, un collègue de Patrick repère son scooter et prévient Marc. Sous le siège, il trouve son blouson, son téléphone. Parmi les appels récents, un nom revient souvent, celui d'Audrey Louvet. Il l'appelle, l'interroge. Elle l'a vu, oui, ils se sont promenés, mais ils se sont quittés, lui pour aller récupérer son scooter, elle pour prendre un bus. C'est la version qu'Audrey servira également aux gendarmes lorsqu'ils l'interrogeront sur la disparition, puis sur la mort de Patrick Isouard. Un enregistrement d'une caméra de vidéosurveillance les montre ensemble devant une station essence. Et c'est la dernière image de Patrick Isouard vivant. C'est elle, Audrey Louvet, qui donne le nom de l'assassin aux gendarmes. Oh, pas pour le dénoncer, mais accidentellement. Alors qu'elle attendait le bus pour rejoindre le lieu du rendez-vous avec Patrick, raconte-t-elle, un ami est passé en voiture et lui a proposé de la déposer. Il a un nom, cet ami, devant le policier qui l'interroge, un téléphone. Bon, des questions de routine, mais parfois la routine a du bon. Oui, il s'appelle Rémy Chen. Rémy Chen. Ce nom dit quelque chose au policier, mais... Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est cet homme dont la femme a été retrouvée pendue en 2009. Une affaire bizarre. Elle avait laissé un mot dans lequel elle demandait pardon. Oui, bizarre. Un suicide? Peut-être. Peut-être pas. Comme l'explique un podcast d'Arte Radio réalisé par la journaliste Elise Costa.
Une enquête est ouverte. Le légiste écrit dans son rapport: si l'hypothèse suicidaire semble la plus probable, l'intervention d'un tiers ne peut être totalement exclue. Autour de son cou, la corde a laissé des sillons horizontaux, ce qui est une orientation atypique.
Au cours de l'enquête, l'amant d'un soir avait été entendu comme témoin. Il s'appelait Patrick Isouard. Il avait dit au policier que Nadège n'était pas heureuse en ménage, qu'elle voulait quitter son mari, refaire sa vie avec lui. Mais si les enquêteurs soupçonnent Rémy Chen et Audrey Louvet, ils n'ont aucune preuve, et surtout pas de corps. Patrick Isouard est-il vivant? Séquestré quelque part? Est-il mort? Mis en garde à vue, les deux suspects sont finalement libérés au bout de 48 heures, faute d'éléments probants. Le 17 juillet, soit 24 jours après la disparition de Patrick Isouard, son corps est retrouvé dans la grotte. L'odeur est épouvantable, le corps est en partie carbonisé. Mais ses tatouages, un Jim Morrison dans le dos et un Indien sur le bras gauche, permettent de l'identifier rapidement. Interrogés à nouveau, Rémy Chen et Audrey Louvet maintiennent leur version initiale. Ils ne savent rien. Circulez. Au passage, tout de même, Audrey Louvet apprend de la bouche d'un enquêteur que l'épouse de Rémy Chen est morte par pendaison et que Patrick Isouard avait à l'époque été interrogé car il avait une aventure avec elle. Elle tombe des nues, comprend qu'elle a été manipulée, mais elle reste muette. Rémy Chen ne lui a-t-elle pas promis qu'il enverrait deux hommes s'occuper d'elle et de ses enfants si elle l'ouvrait? Elle ne veut plus entendre parler de ça. Elle ne veut plus que des regards suspicieux se posent sur elle. D'ailleurs, elle a déménagé à Lunel, à une soixantaine de kilomètres de Sète. Et pendant ce temps, l'enquête piétine. En désespoir de cause, la famille de Patrick Isouard en appelle à la télé et tout particulièrement à l'émission Crime, diffusée sur Énergie 12, qui lance des appels au public pour tenter de dénouer des affaires criminelles. Et c'est bien ce qui se passera. L'émission est diffusée le 8 février 2016. Marc Isouard, frère de Patrick, y lance un poignant appel à témoignage. Bingo! Une femme se manifeste. C'est une voisine d'Audrey Louvet. Elles se voient de temps en temps, boivent ensemble un café, chez l'une ou chez l'autre. Après l'émission, Audrey confie à demi-mot à sa voisine que Rémy Chen est responsable de la mort de Patrick Isouard.
L'émission télé dans laquelle le frère de la victime était intervenu a elle aussi apporté son lot de surprises. Une femme affirme avoir recueilli les confidences d'Audrey Louvet. Celle-ci lui aurait raconté avoir téléphoné à Patrick Izoard pour l'attirer près du cimetière et l'entraîner dans la grotte. Il se serait montré réticent. Pour le convaincre à entrer, elle lui aurait promis une gâterie.
Et voilà l'enquête qui redémarre. Rémy Chède et Audrey Louvet sont écroués en mars 2016 pour enlèvement, séquestration suivie de mort et assassinat. Cette fois, Audrey Louvet déballe son sac. Elle raconte en détail comment les choses se sont passées. Mais pas Rémy Chède, qui lui nie farouchement. « Cette femme est une menteuse, une mythomane, une pauvre fille qui ne sait pas ce qu'elle dit », affirme-t-il. Jusqu'au procès, les avocats de Rémy Chède penseront pouvoir faire acquitter leur client. La journaliste du Monde, présente au procès, explique pourquoi.
Pas d'ADN, pas d'armes retrouvées, pas d'images de vidéosurveillance, rien qui puisse matériellement incriminer Rémy Chède. Un mobile présumé, cette vengeance ourdie pendant 5 ans contre l'homme avec lequel son épouse l'avait trompé, dont les avocats prouveraient la fragilité. Des analyses de téléphonie fâcheuse, avec d'encombrantes coïncidences, des relais activés au mauvais endroit, au mauvais moment, qu'il saurait contester. Une co-accusée, Audrey Louvet, qui l'accablait, mais de cette fille paumée, qui avait tant menti, s'était si souvent contredite, il n'allait faire qu'une bouchée. Sur le papier, ça devait marcher.
Ça pouvait marcher, peut-être. Mais l'attitude de Rémy Chède, sa façon de ne pas répondre aux questions, ses mensonges avérés n'ont pas joué en sa faveur. Et puis, l'ombre de son épouse Nadège a plané sur la cour d'assises. Alors, suicide ou assassinat ? Une enquête est toujours ouverte. Le père de Nadège Chède a porté plainte en 2017 pour meurtre contre le mari de sa fille. Le 29 janvier dernier, le jury a condamné Audrey Louvet à 12 ans de réclusion pour séquestration. Rémy Chède lui a été reconnu coupable d'assassinat et condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Il n'a pas fait appel de ses verdicts.
Yeah.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la grotte sanglante dont nous allons parler avec notre invitée, la journaliste Élise Costa. Bonjour.
Bonjour.
Spécialisée dans les affaires judiciaires, Élise, vous avez suivi de près l'affaire de la grotte sanglante. Ça vient d'où la grotte sanglante ? C'était un titre de la presse écrite ?
Vous savez, entre chroniqueurs judiciaires, généralement, on donne un nom comme ça pour pouvoir la reconnaître. Donc, je ne sais pas de qui elle est partie, mais ouais, dès le départ, on savait que ça s'appelait la grotte sanglante de Sète.
Bon, c'était de la tradition orale.
Voilà, exactement.
La transmission orale. Vous avez écrit en particulier une série d'articles sur le sujet pour le site d'information Slate, et vous avez réalisé un podcast pour Arte Radio dans votre série Fenêtre sur cour, qui nous fait penser à Hitchcock et James Stewart, qui nous fait penser à du polar. Le polar, dans la réalité, ça s'appelle un fait divers. Ou un fait police-justice. Un mot sur cette série Fenêtre sur cour.
Eh bien, elle se termine au bout de 3 saisons, où en fait, c'est où j'explique en fait le métier de chroniqueur judiciaire. Je raconte un détail de l'audience d'un procès pour expliquer comment la justice fonctionne.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire-là ? Parce que on parlera justement du fait divers, du fait police-justice, de la chronique judiciaire à la fin de l'entretien, plus généralement. Mais cette histoire-là, qu'est-ce qu'elle comporte en elle qui vous a interpellé ?
Alors, je pense que ce qui m'a interpellé dans cette histoire, c'est que je comprenais que c'était compliqué et que c'était une affaire à tiroir. Et je n'avais aucun a priori avant d'aller au procès, tout simplement parce que je connaissais assez peu l'histoire. Je savais ce que des confrères ou des consoeurs m'en avaient rapporté, mais je ne connaissais pas vraiment les détails. Je savais pas exactement comment ça s'était passé, etc. Donc, au départ, comme souvent dans la façon dont je travaille, il y avait quand même une question de savoir, là en l'occurrence, qu'est-ce qui s'était passé.
Vous avez suivi.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ?
Non.
Eh bien, nous avons eu.
Voilà, vous avez suivi l'affaire dès le début, dès l'enquête.
Non, j'ai pas suivi l'affaire dès l'enquête. L'affaire.
Vous avez commencé quand ? D'accord. Dites-moi.
J'ai commencé. En fait, je suis allée au procès.
Oui.
En ne sachant presque rien en fait de l'affaire. Donc, j'ai découvert l'affaire en même temps que les jurés, j'ai envie de dire, et que le public présent dans la salle. Moi, j'en garde un souvenir d'audience très longue, d'une ambiance vraiment pesante. Parce que quand vous êtes face à un accusé qui est complètement cadenassé, qui est fermé, et qui en même temps parle beaucoup, qui a une logorée importante, c'est compliqué en fait de démêler les choses. Et surtout, ce qui m'a troublée, c'est le personnage d'Audrey Louvet qui suppliait l'accusé qui était dans le box de, enfin Rémy Chaîne, d'avouer et de dire ce qui s'était passé.
Mais qu'est-ce qui vous a... Alors je repose la question, même si vous avez déjà répondu, mais on va essayer d'aller plus loin. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait un appât qui vous a intéressé dans cette histoire ?
C'était la complexité des personnages. C'était que j'avais compris qu'il y avait une histoire de vengeance. J'avais compris que c'était une histoire de vengeance en plus sur le long terme. C'est-à-dire pendant Nadège Chaîne meurt en 2009 et l'assassinat de Patrick Izoard a lieu en 2014. Donc je comprends qu'il y a un laps de temps important et je comprends que quelque chose s'est noué à ce moment-là et qu'un plan s'est façonné à ce moment-là. Et c'est ça qui m'intéressait en fait. C'était vraiment la complexité des personnages et de comprendre comment on pouvait en arriver là.
Alors, on va revenir sur l'enquête qui était longue, on l'a dit, semée de rebondissements. On a notamment trouvé un mégot dans cette grotte qui, a-t-on pensé à un moment, aurait pu innocenter Rémy Chaîne. On a attaché de l'importance à ce détail-là ou pas ? Enfin, ce détail, à cet élément matériel ou pas ?
On en a... Oui, ça a eu de l'importance au début, quand on l'a découvert. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, déjà, on a trouvé le mégot de la victime, de Patrick Izoard. Donc, avec son ADN dessus. Donc, on savait qu'effectivement, il avait bien été dans la grotte. Et... ensuite, ce qu'ont fait les enquêteurs, c'est qu'ils ont tout ramassé. Et dedans, il y avait des mégots. Et on retrouve sur un des mégots de l'ADN d'un, si mes souvenirs sont bons, d'un homme fiché au grand banditisme. Sauf que cet ADN est partiel. Et au final, bon, ben, on a découvert que c'était pas du tout son ADN. Donc, ça a fait un peu pchit, j'ai envie de dire, et ça a permis, en tout cas, dans ce laps de temps, ça a permis aux avocats de la défense de dire, vous voyez, toutes les pistes n'ont pas été explorées.
Mmh. Et y a-t-il pour vous, alors, l'ombre d'un doute? Y avait-il l'ombre d'un doute quant à son innocence possible, à ce Rémy Chaîne ou pas? C'était quoi votre conviction?
Vous voulez dire avant ou après le procès?
Pendant.
Pendant. Alors c'est sûr, comme vous l'avez très bien décrit, et comme l'a très bien décrit Pascal Robert-Diard du Monde, sur le papier, on se demandait en fait qu'est-ce qui allait pouvoir l'inculper. Parce qu'il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de traces quelconques. Mais on a quand même un faisceau d'indices qui est très important. Alors Rémy Chaîne appelle ça des coïncidences, mais c'est quand même un peu plus que ça. Et surtout, on a les aveux d'Audrey Louvet qui, quand elle raconte l'histoire, colle parfaitement avec toutes ces coïncidences. Soudain, toutes ces coïncidences s'expliquent. Donc l'ombre d'un doute...
Qui est aussi, un titre d'Hitchcock.
Oui.
Hein. L'ombre d'un doute.
On peut toujours l'avoir, mais... Là, en l'occurrence, et je vais parler de manière très personnelle, moi, mon intime conviction, c'est qu'il est réellement coupable. C'est sûr que si jamais on s'intéresse uniquement à la personne de Rémy Chaîne, qui ne dit pas grand-chose, on peut pas savoir grand-chose. Mais c'est pour ça qu'un procès est très intéressant, c'est que on va entendre son entourage.
Oui.
Et ceux qui vont le plus éclairer sur la personnalité de Rémy Chaîne, c'est sa fille et sa nouvelle compagne. Parce que dès lors qu'elles arrivent au procès, on comprend la manipulation de Rémy Chaîne. Elle débite tout ce qu'il leur a dit depuis des années. Elle le débite même d'une façon un peu robotique, un peu clinique. Et on comprend qu'en fait, elle croit en fait ses raisonnements tordus, et parce que c'est ça en fait, Rémy Chaîne, il a beaucoup de raisonnements alambiqués, des explications très longues pour en fait des choses très simples. Et elle, on comprend qu'elle y croit tout simplement.
Ouais. Qu'est-ce qu'on dit les experts sur le côté manipulateur, côté présupposé manipulateur de Rémy Chaîne? Quel portrait ils en ont fait?
Je me souviens plus exactement des détails. Ce que je peux vous raconter, en revanche, c'est une anecdote qui, moi, m'a marquée. C'est que quand la nouvelle compagne de Rémy Chaîne arrive à la barre, elle raconte qu'en fait, toutes les semaines, avec Rémy Chaîne, avec son compagnon, ils effaçaient tout leur SMS de leur téléphone.
Oui.
Comme on sortirait les poubelles. Et elle ne comprend pas qu'on puisse trouver ça tout de même curieux, ce besoin d'effacer ses traces. Elle dit, ben non, c'est normal, ça sert à rien. Et en fait, on comprend que ça sert à rien, c'est Rémy Chaîne qui lui a dit. Qui lui a dit, ben oui, on va faire ça, parce qu'en fait, ça sert à rien. Mais il a déjà, il a quand même en tête l'idée d'effacer ce qu'il a fait.
Oui.
En tout cas, moi, c'est ce qui m'a marqué.
Bah ça pèse forcément dans le raisonnement des jurés. Alors Nadège, l'épouse de Rémy Chaîne, retrouvée pendue, forcément l'ombre de sa mort a plané sur le procès. Vous pensez que ça a joué dans la condamnation de Rémy Chaîne?
Alors, c'est vrai que la mort de Nadège, c'est le point de départ de l'histoire. À savoir si les jurés ont cru qu'il était également coupable de la mort de sa femme. Ça, je ne sais pas, mais en fait, c'est pas si important. Parce que quoi qu'il arrive, c'est quand même une histoire de vengeance. C'est-à-dire que si Nadège Chaîne s'est suicidée, alors n'a-t-il pas voulu venger sa mort, qu'il impute à Patrick Izoard, son amant? Et si c'est pas ça, s'il a aussi tué sa femme, donc il est coupable de deux assassinats. Mais pour le moment, en tout cas, ça, c'est vrai qu'on n'a pas de réponse. On a des éléments qui sont quand même assez troublants. Je pense notamment à une main courante pour violence conjugale qu'avait déposée Nadège Chaîne plusieurs années avant sa mort. C'est troublant notamment parce que Rémy Chaîne n'arrête pas il répète sans cesse que leur couple allait très bien, qu'il n'y avait absolument aucune aspérité et que tout était normal. Et on se rend compte que quand à l'audience sort cette main courante, on se rend compte quand même que c'était pas si simple que ça et que ça allait pas si bien que ça.
Élise Costa, on va se retrouver dans 3 minutes. On va parler d'Audrey Louvet après avoir écouté Jane Birkin, qui chante un titre de circonstance, qui s'appelle Les Murs Épais. C'est Murs Épais, comme c'est d'une prison d'ailleurs.
J'étais posé ces fleurs de printemps. Dispersées au vent, jardinière pressée, les yeux noyés, comme je les hais.
Élise Costa, parlons maintenant d'un personnage important, un protagoniste important de cette histoire, Audrey Louvet, donc qui a servi d'appât, cette femme qui reconnaît avoir toujours été idiote, hein, le dit elle-même. Il me semble que la prison préventive qu'elle a déjà subie, près de 5 ans, une période très longue, a eu sur elle tout de même un effet sinon rédempteur, du moins bénéfique. Elle a subi une formation, elle a obtenu un diplôme. Qui est cette femme? Quel est le profil psychologique de cette femme au moment des faits?
Au moment des faits, Audrey Louvet, c'est quand même quelqu'un de très fragile, qui a eu une vie très malheureuse, et parce que sa mère ne l'aimait pas, elle était obligée de faire le ménage, et quand c'était mal fait, elle se prenait des tartes, comme elle dit. Elle a été abusée par ses frères. Enfin, ça a été compliqué, mais elle a toujours eu en elle cette naïveté. Elle a jamais été. C'est curieux d'ailleurs pour quelqu'un qui a été confronté autant à la noirceur du monde qu'elle n'ait pas été plus alerte.
Oui.
Et vous disiez par exemple que la détention lui avait fait du bien. Et déjà, je pense que ça l'a sortie un peu de cette prison mentale dans laquelle elle était par rapport à Rémy Chen, parce que elle a longtemps cru ses mensonges. Elle a longtemps cru que en fait Patrick Izoard lui devait de l'argent. elle a longtemps cru qu'en fait il y avait que Rémy Chen avait engagé deux hommes de main pour assassiner Patrick Izoard. Quand elle est arrivée en détention, elle était effrayée. C'est-à-dire que même les surveillantes devaient vérifier à chaque fois qu'elles ouvraient une porte, parce que Audrey Louvet avait peur qu'on vienne la tuer.
Ouais.
Donc déjà, ça lui a fait du bien par rapport à ça. Et puis elle s'est peut-être endurcie, ce serait pas le mot, mais elle a peut-être compris certaines choses. En tout cas, elle a peut-être avancé psychologiquement. Mmh.
C'est fou qu'il faille aller en prison pour être quelque part libéré des murs épais.
Oui, c'est vrai.
De cette
après, c'est
mentale.
La notion d'emprise aussi. Hein,
c'est évidemment. Alors d'ailleurs, comment se sont-ils comportés tous les deux et entre eux lors du procès?
C'est là que le contraste était criant. C'est-à-dire qu'on avait dans le... Alors Audrey Louvet comparaissait libre hein, parce qu'elle avait été libérée... Parce qu'en fait, elle avait attendu trop longtemps avant son jugement, et dans ce cas-là, elle était remise en liberté, donc elle comparaissait libre. Donc elle était à la barre, et donc elle invectivait Rémy Chen, et elle alors ça passait par différents états, mais elle le suppliait de dire la vérité. Ensuite, elle était très en colère, elle lui disait « je te déteste, tu as pourri ma vie ». Enfin, il y avait... En fait, d'un côté, on avait quelqu'un qui lâchait toutes ses émotions, et de l'autre... derrière le box vitré, on avait quelqu'un qui était complètement fermé.
Ouais. Alors, vous me disiez tout à l'heure que cette histoire vous avait interpellé par la complexité des personnages, hein, c'est bien ça.
C'est bien ça.
Quels sont les ingrédients qui font qu'une affaire déclenche votre intérêt? Ben, toutes les affaires, vous avez, par exemple, pour votre série, vous n'avez pas sélectionné toutes les affaires qui existent, évidemment. Vous avez fait un choix éditorial, un choix de journaliste. Sur quels critères? À partir de quel moment et pourquoi ce qu'on appelle un fait divers vous intéresse?
Ben, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment, il va y avoir une question qui va m'interpeller. Mmh. Il va y avoir, je pense, notamment à une affaire qui a eu à Toulouse où une jeune étudiante avait été retrouvée dans une malle d'acide, Eva Bourceau. On avait retrouvé les accusés très vite et il s'agissait de deux étudiants promis un avenir brillant. Et moi, à ce moment-là, ma question avait été comment ils ont pu en arriver là et bon, ils étaient drogués à un certain niveau, et comment on en arrive alors qu'on a un avenir tout tracé et que tout doit bien se passer, comment on en arrive à se mettre dans des états pareils. Voilà. Par exemple, oui, ça va être vraiment une question sur
l'humain en fait.
Humain, hein. Voilà, ouais. Ouais.
C'est une exploration de l'humain.
Ce qui fait notre humanité, ouais. Ou notre inhumanité.
Bien sûr,
ça dépend.
Bien sûr. Après, tous les faits... Alors, on dit le fait divers à la cote en ce moment, parce que, me semble-t-il, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais ce sont des histoires de gens ordinaires qui pourraient être nous, en fait. C'est pas l'élite de la société, c'est pas forcément des ministres, forcément des gens connus, c'est d'ailleurs très souvent des gens anonymes. Donc, des gens ordinaires pris dans des situations extraordinaires. Est-ce que, à votre avis, c'est là l'ingrédient de l'intérêt pour le fait divers de la part du public?
En tout cas... Pour rebondir à votre question de tout à l'heure, moi, c'est un de mes intérêts majeurs. Par exemple, ça m'intéresse pas du tout, les serial killers. Je sais que le public a une certaine fascination pour eux, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout parce que ce qui m'intéresse, c'est comment des gens comme vous et moi vont basculer, vont commettre l'irréparable. Et comment on en arrive là? Et on se rend compte, ça permet aussi de comprendre comment la société a réagi, comment, en fait, on aurait pu faire autrement et comment on aurait pu éviter. Mais c'est vrai que cette question de l'identification, c'est une question qui a beaucoup tourné dans ma tête et j'ai l'impression que le public s'identifie très souvent à la victime parce que peut-être que c'est plus facile et on ne s'identifie jamais à l'accusé. On pense toujours que ça ne nous arrivera pas ou que ça n'arrivera pas à un membre de notre famille. Et c'est d'ailleurs assez troublant quand les témoins arrivent à la barre et qu'ils disent, justement, ils disent, mais en fait, je pensais tellement que ça n'arrivait qu'aux autres.
Oui.
Enfin, voilà, bon, après, la majorité des gens, heureusement, vont pas se retrouver dans une cour d'assises. Mais vous comprenez le fonctionnement derrière.
Bien sûr. Et c'est, alors, évidemment, le fait divers permet aussi d'ouvrir la porte vers la connaissance de notre système judiciaire. Ça, c'est aussi tout à fait passionnant. Est-ce que le fait divers dit toujours quelque chose d'une époque? D'une mentalité, de courant philosophique, d'une époque précise, de courant politique. Est-ce qu'il est aussi un support de faits divers pour ça, pour analyser une société et une époque?
Alors, j'ai peut-être pas assez de bouteilles pour vous répondre, parce que je fais pas ça depuis plusieurs décennies. Mais je sais que, par exemple, on va remarquer, peut-être dans les cas de violence conjugale, on va remarquer que ce qui s'est passé avant, notamment cette notion d'emprise, comment en fait une femme n'est pas partie de son foyer. Ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment comprendre au cours d'un procès. On comprend aussi quand on va dans les palais de justice et qu'on assiste à des audiences correctionnelles, on comprend aussi comment la justice essaye de malgré le manque de moyens, essaye de pallier à certaines défaillances et comment on va extraire si possible, le mari violent, parce que c'est souvent un homme, on va extraire le mari violent du foyer pour le juger immédiatement. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça, des petites nuances qu'on ne peut apprécier que si on fréquente un palais de justice.
Oui, c'est ça. Oui, allez-y, pardon.
Non. Et je pense que c'est là qu'on voit un peu la bascule de la société, à la façon dont les gens, la justice se comporte.
Voilà, donc on peut mieux analyser une société à travers des cas qui sont pourtant des cas pas anecdotiques, mais des cas personnels, hein, qui peuvent pas avoir valeur de sondage, qui peuvent pas avoir valeur scientifique, sociologique, mais n'empêche que ces histoires particulières, elles disent des choses sur le contexte général. De ce point de vue, quels sont les grands faits divers que vous avez retenus dans votre série, ceux qui vous ont vraiment marqué, si on vous demandait comme ça un palmarès des faits divers en France, on va les prendre en France, hein, qui ont été vraiment marquants.
Oui, de toute façon, je
marquants.
N'ai fait que la France.
Voilà,
donc
c'est quelques France marquants pour vous.
Il y a suffisamment de travail. Alors, j'ai un souvenir aussi de... On parlait des titres que la presse donne parfois à des faits divers. Je me souviens d'une affaire qu'on avait surnommée la démembreuse du canal du Midi. Qui avait lieu à Toulouse. Mmh. Où en fait, c'était une femme de plus de 50 ans qui était accusée d'avoir tué et démembré sa collègue de travail. Et ensuite, elle avait dispersé les membres dans le canal du Midi, dans des valises dans le canal du Midi. Mmh. Et c'était... Là, typiquement, la question qui m'animait, c'était comment une femme de cet âge, qui n'est absolument pas connue pour des faits de violence, a pu en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé dans son parcours, comment a-t-elle été traitée, comment ou pas traitée, pour qu'elle en vienne à faire ça. Ça, c'est une de mes affaires marquantes.
Parce que c'est troublant, effectivement. Ces questions-là sont troublantes.
Oui, voilà. Et puis, enfin. À aucun moment on imagine, d'ailleurs quand on a connu le nom de la coupable, les gens sont tombés de haut parce que c'était pas du tout le profil type en fait qu'on se fait du tueur ou de la tueuse.
Bien.
Donc ça c'est un procès qui m'a marqué.
Bien, bah écoutez, on va rester sur cet exemple-là, Élise Costa. Merci infiniment pour toutes les réponses à toutes les questions que je vous ai posées autour du fait divers. C'était bien de faire le point sur le fait divers en général, parce qu'on en traite aussi, nous, Affaires Sensibles. Ça représentait exactement 17% de la programmation d'Affaires Sensibles. J'ai fait les statistiques ce matin, figurez-vous. C'était Affaires Sensibles. C'était une émission que vous pouvez réécouter en podcast. À la technique aujourd'hui, il y avait Michel Béziquian.